Une tribune a été publiée ce matin, une tribune importante. Elle a été publiée par Steve Ohana, qui est économiste, spécialiste dans le domaine de la politique et des sciences. Sa tribune s'appelle « La campagne vaccinale israélienne, prouesse logistique, fiasco démocratique ». Alors bien évidemment, ce titre nous a beaucoup interpellés. Steve Ohana est avec nous en ligne pour en parler. Bonjour Steve.
Bonjour.
Alors Steve, on est très interpellé lorsqu'on vous lit, tout d'abord parce qu'on a l'habitude de parler de la prouesse, comme vous l'avez écrit, israélienne concernant la campagne de vaccination. Hein. Je rappelle quand même que c'est une réussite au niveau logistique, puisque au jour d'aujourd'hui, on va dire à peu près 55% de la population a reçu déjà une première dose de vaccin et que 46% a reçu deux doses, que tout ça s'est fait en moins de 3 mois et qu'aujourd'hui les chiffres montrent que l'épidémie recule. La presse internationale nous cite comme exemple, mais vous nous donnez un électrochoc concernant la protection de la santé publique, du respect des droits des citoyens et surtout du débat démocratique, ce fameux débat public qui n'a pas eu lieu en Israël, mais faute de temps peut-être, non ?
Eh bien, en fait, faute de temps, parce que disons que c'est l'agenda politique qui est venu finalement dicter l'agenda sanitaire. Il y a eu une interférence entre la campagne électorale et la campagne vaccinale. Il est clair que Benjamin Netanyahou a souhaité utiliser le succès de sa politique vaccinale, en tout cas ce qu'il présente comme un succès de sa politique vaccinale, pour engranger des dividendes électoraux et assurer sa réélection la semaine prochaine. Mmh. Et c'est la raison, en fait, c'est l'origine de toute cette précipitation, de toutes les pressions, de toute l'extinction des voix dissidentes.
C'est-à-dire que vous pensez que ce n'est que politique et vous ne pensez pas que c'est dû à l'urgence de l'épidémie, justement ?
Il y a plusieurs facteurs observations qui vont dans ce sens. C'est que ailleurs qu'Israël, on s'est pas dépêché de la même manière. Mm-hmm. C'est vraiment en Israël qu'on a été si vite pour vacciner. Bon, il y a deux autres pays qui ont vacciné à peu près au même rythme, c'est Gibraltar et les Émirats arabes unis. Mm-hmm. Mais vraiment, à part ces deux autres pays, il n'y a aucun équivalent à ce que fait Israël. Donc oui, on peut vraiment raisonnablement penser, vu la proximité des élections, qu'il y a eu une interférence avec un agenda politique.
D'accord. Alors, Steve Ohana, vous dites donc dans votre tribune un certain nombre de points importants. Vous citez un certain nombre de points importants qui ont été mis de côté justement parce qu'il y a urgence. Alors, je vais vous citer. Hein. Vous dites, par exemple, que le statut exact de ce nouveau traitement, de ce vaccin, de cette n'a pas été vraiment exprimé. Vous dites également qu'il y a un problème sur la prise de responsabilité par rapport au vaccin, sur le recul et puis sur le manque d'information au préalable, l'absence d'information pour les citoyens et surtout cette absence de demande de consentement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ces différents points ?
Oui, alors tout à fait. En fait, quand il y a un principe d'éthique médicale qui est fondamental, c'est l'idée du consentement éclairé. C'est-à-dire que quand un test clinique, quand une expérience médicale est menée sur des personnes, on les informe qu'elles sont en train de participer à une expérience médicale, un test, et on les informe des risques qu'elles encourent. Éventuellement, elles peuvent même avoir une compensation financière. Et c'est alors seulement qu'elles peuvent fournir un consentement éclairé et qu'on peut continuer avec l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental en termes d'éthique et de droit humain. Dans le cas d'Israël, la tromperie, on va dire, ça a été qu'une expérience médicale a été menée sur tout le peuple israélien, d'abord les plus âgés, mais progressivement de plus en plus jeunes, sans que le peuple israélien n'ait été mis au courant qu'ils étaient en train de participer à une expérience. Et c'est que progressivement, par des fuites, par des propos maladroits, peut-être d'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et en fait, certaines personnes ont ouvert les yeux et ont dit, oh, mais en fait, on est en train de participer à une expérience là. Ce vaccin, en fait, qui n'en est pas exactement un, parce qu'il répond pas aux critères du vaccin, et la FDA l'a appelé plutôt thérapie génique. On n'a pas de recul sur ses effets à long terme. On a tout au plus 6 mois à peu près. Non, peut-être entre 6 mois et 1 an, on va dire, depuis que on a mené les toutes premières expériences. Donc, et pour vous donner une idée,
Oui.
la phase 3, de test doit se terminer que le 31 janvier 2023. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est dans une phase de test, c'est très clair. Or, quand on est dans une phase de test, les personnes qui participent au test doivent le savoir, c'est fondamental en termes d'éthique. Et là, on a dit aux Israéliens, et il y a même des propos de Edelstein qui sont parfaitement clairs en décembre, avant même le début de la campagne, pour dire tout a été testé, il est parfait, ce vaccin est parfait.
Il avait été testé aux États-Unis, en tout cas sur un certain nombre de malades, enfin de personnes déjà.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est pas parce qu'il a déjà été testé sur quelques dizaines ou centaines ou même milliers ou même dizaines de milliers de personnes qu'on peut considérer qu'il n'est plus en phase de test et qu'on peut l'appliquer d'un coup à 5 millions, vacciner 5 millions d'Israéliens, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc de 30 000 à 5 millions, il y a un sacré gap. Et c'est ça le problème. C'est que normalement, c'est pas comme ça qu'on développe un vaccin. On n'a pas du tout respecté les clous. Mais c'est vrai qu'il y a une procédure d'urgence, et c'est la FDA justement qui a donné une approbation avec un caractère d'urgence. Donc, si vous allez sur le site de la FDA, il y a écrit ce vaccin n'est pas approuvé par la FDA, mais il est approuvé dans un cadre d'urgence seulement. Et c'est là que la tromperie en fait du public israélien a eu lieu. Parce que du coup, eux, ils se sont dit, ah ben s'il est approuvé par la FDA, on n'est plus en phase de test, donc c'est bon. On n'est pas, entre guillemets, des cobayes, on n'est pas en train de participer à une expérience.
Bon, mais cette prise de conscience, elle a été faite. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y a eu une telle rapidité que le public n'a pas été complètement informé. Mais petit à petit, les journalistes, etc., ont parlé de cette mesure d'urgence, ont parlé de ces phases de test. Et puis, comme vous venez de le dire, le président de Pfizer lui-même l'a dit, Israël est le laboratoire. Et là, effectivement, tout le monde a réalisé qu'on était un des premiers pays à tester cette thérapie, mais peut-être pour le bien. Donc, en fait, il y a eu certainement une réflexion entre le bénéfice et le risque qui a été pris par l'État d'Israël.
Oui, on peut voir les choses comme ça. Simplement, il faut vraiment à chaque fois, en termes de santé publique et de politique sanitaire, bien peser la balance bénéfice-risque. Donc, faut voir pour chaque catégorie de la population, chaque tranche d'âge et chaque type de condition de santé, voir qu'est-ce que peut apporter le vaccin et balancer ça avec qu'est-ce que peut provoquer comme effet secondaire le vaccin. Voilà. Faut vraiment mettre en balance les deux. Et ce qui est très important à voir dans le cas du Covid, c'est que selon la tranche d'âge, la balance bénéfice-risque de ce vaccin n'a rien à voir. Parce que pour des personnes âgées ou des personnes qui présentent des facteurs des facteurs à risque de contracter une forme sévère de la Covid, le vaccin peut présenter un avantage peut présenter une balance bénéfice-risque positive. Parce que ces personnes sont quand même le taux de mortalité, le taux de létalité et de mortalité dans ces catégories de la population est quand même important. Donc, même sans connaître les effets à long terme de ce vaccin, on peut dire que ça a un sens de vacciner ces catégories de la population. Par contre, pour des personnes jeunes, et en particulier, je pense, aux moins de 20 ans, et c'est une des caractéristiques de la campagne vaccinale israélienne, c'est d'avoir encouragé les ados entre 16 et 18 ans et de se vacciner en masse, en mettant une pression, par exemple, pour l'obtention du baccalauréat, vous ne pourrez pas l'avoir si vous ne vous vaccinez pas. Là, il y a un problème en termes de balance bénéfice-risque, parce que c'est pour les moins de 20 ans, le risque de mourir sur une année de la Covid, c'est 3 chances sur 1 million. Donc, c'est vraiment un risque extrêmement faible pour cette catégorie de la population.
Donc, alors, ça veut dire...
dans des cas comme ça, en termes de gestion des risques sanitaires, il faut être extrêmement prudent, mm-hmm. parce qu'on est en train de vacciner une population très jeune, très bien portante, sans risque, enfin avec un risque vraiment minime de contracter une forme grave de la COVID, et on les vaccine avec une thérapie qui n'est pas exactement un vaccin, sur laquelle on a à peu près 6 mois de recul et sur laquelle on est en phase de test jusqu'en janvier 2023. Donc il y a vraiment, en termes de balance bénéfice-risque, un gros problème,
Alors là, justement, ouais. vous me tendez la perche puisque vous parlez de la jeunesse. On entend bien aujourd'hui dans les médias qu'on est en train de nous préparer à l'idée qu'on va vacciner les petits enfants, enfin les moins de 12 ans. On a annoncé hier déjà que des tests sont faits sur plus d'un millier d'enfants avec des doses différentes, etc. La peur du variant ou des variants, on va dire, motive cette vaccination. Mais alors là, justement, vous dites le principe de prudence n'est pas du tout mis en place. Et puis, il n'y a pas de débat public sur ça. C'est-à-dire qu'on peut-être que demain, les adultes ont dit oui à la vaccination, mais peut-être qu'ils diront non pour leurs enfants.
Tout à fait. Et après, maintenant que les personnes adultes sont en grande majorité vaccinées, eh bien, en fait, même si les enfants sont vecteurs du virus, les personnes qui sont à risque sont protégées par la vaccination.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites dans l'article, c'est que c'est l'absence de débat public. Parce que là, on ne va pas discuter sur l'importance ou pas du vaccin, mais plutôt sur la notion de démocratie, de débat public, de contradiction, un débat contradictoire qui est absent, vous le dites très bien dans votre article.
Oui, c'est ça. En fait, depuis le début, en fait, on a dit quelle était la ligne officielle. La ligne officielle, c'était que le vaccin est sans risque, que la COVID, c'est très, très grave pour tout le monde, y compris les femmes enceintes et les enfants, et qu'on a un remède qui va nous sauver et qui va nous permettre de revenir à la vie normale. Et tout ce qui dévie de cette ligne officielle, qui a plein de problèmes dans tous les sens et de failles, tout ce qui dévie, tous ceux qui essayent de pointer ces failles, tous ceux qui essayent de pointer des risques de cette ligne, ou des alternatives à cette ligne, eh bien, c'est fake news, c'est complot, c'est sexe, c'est tout ça. Voilà, donc c'est ça le problème.
Alors qu'il y a une tentative, on a vu ces derniers jours qu'il y a une plainte qui a été déposée au tribunal de la Haye, on a vu des cabinets d'avocats préparer des plaintes même auprès de la Cour suprême. Donc il y a effectivement des questions qui sont posées sur la responsabilité par rapport au vaccin, sur les effets secondaires, sur les droits des citoyens à refuser ou pas d'être vaccinés. Vous dites que ces projets de loi importants qui ont été votés devant une Knesset vide avec à peine une dizaine de députés.
Oui.
Et pourtant, ce sont des projets de loi fondamentaux sur les droits des citoyens, sur la circulation, sur le droit des non-vaccinés, les droits des non-vaccinés qui doivent être fichés, dont les fichiers, les données vont être données aux mairies, etc. Donc, comment ça se fait qu'il y a si peu de motivation de la part des politiques concernant ce sujet ?
Eh bien, en fait, ça, c'est une très, très importante question. Et quand on pose la question à des personnes du parti Avoda ou d'autres partis Yesh Atid, en leur disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Quelle est votre position sur la vaccination forcée ?» En fait, ils ont l'air de ne pas... Ils ne se sont pas opposés. Ils vont dire officiellement « On était en campagne, on avait autre chose à faire. » Mais on ne peut pas croire à la sincérité de cet argument quand on voit l'importance, l'enjeu. On est vraiment en train de changer la société israélienne, là. Et ce qui était censé être des mesures d'exception pour une période de temps temporaire, en fait, on voit que c'est en train de s'incruster, de devenir le nouveau système, en fait, face aux futures pandémies, etc. Donc, Benjamin Netanyahou a parlé des 36 millions de doses injectées à intervalles de 6 mois avec renouvellement du badge vert. Enfin, on voit que, voilà, ça s'inscrit dans la durée, ce système-là. Et on voit que face à cet agenda, les partis opposés à Benjamin Netanyahou ne réagissent pas, ce qui est très inquiétant, parce que donc ils ont défendu les droits civils, l'importance d'avoir une Cour suprême indépendante, etc. Donc on aurait pu croire que c'était que face à ce qui est en train de devenir une sorte de dictature sanitaire, ils allaient réagir pour protéger nos droits, et en fait non. Donc voilà, il y a un consensus assez inquiétant sur tout l'échiquier politique israélien pour dire que c'est normal en fait.
Alors, Steve Ohana, vous avez écrit cette tribune. J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du temps avant de l'écrire, parce que aujourd'hui, elle vient un petit peu à contresens, hein, de ce qu'on a l'habitude de lire. Est-ce que comment qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire cette tribune?
Eh bien, c'est la détresse que je vois autour de moi, c'est-à-dire que il y a un narratif qui nous est raconté dans les médias et qui consiste à dire ça y est, Israël, premier pays de vaccination, premier pays à retourner à la vie normale, tandis que les autres pays qui vaccinent pas vont devoir reconfiner, etc. Et en fait, ce narratif se cogne sur une réalité sociale, humaine, extrêmement douloureuse que moi je vois dans mon quotidien. Et cette réalité humaine m'a poussé à m'intéresser au sujet. Donc j'ai été sensibilisé au sujet, donc j'ai commencé à lire et à réfléchir beaucoup pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les motivations de ceux qui ne se vaccinent pas, pour comprendre aussi pourquoi certains vaccinés sont si mal, même après avoir soi-disant obtenu le badge vert qui allait leur permettre de retourner à la vie normale. Et en fait, ils étaient encore mal, des mois après.
Mal
Mal
psychologiquement,
moral, voilà,
moralement.
mal psychologiquement, voilà. Et donc j'ai voulu comprendre tout ça, et c'est quand j'ai compris cette douleur cachée du pays derrière le narratif du succès que je me suis dit qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme pour Israël, éventuellement pour les autres pays, parce qu'on voit bien quel est le narratif. C'est un narratif mondial. Maintenant, ça consiste à dire, voyez, Israël est en train de sortir de déconfinement. Maintenant, il va falloir faire la même chose chez vous, chez nous aussi. C'est ce qu'on va dire aux Français, etc. Donc, il faut que, voilà, je voulais tirer la sonnette d'alarme, leur montrer ce qu'allait être leur futur et qu'ils puissent prendre les devants. Parce que ce futur n'est pas réjouissant.
Vous vous êtes penché sur ce que les juristes en Israël sont en train de justement de faire, par rapport aux droits civiques et aujourd'hui le problème des personnes non vaccinées, effectivement, se pose sur leur lieu de travail, dans les lieux publics, en vacances, dans les hôtels, dans les avions. Est-ce que vous vous êtes penché sur ce sujet avec eux?
Eh bien, les juristes sont un petit peu en désarroi. Ils comprennent pas comment d'un coup ce pays dans lequel il y avait un droit, il y avait une loi, ben en quelques mois finalement il y a plus de droit, il y a plus de loi. On fait les employeurs se comportent comme des hors-la-loi, mais derrière il n'y a pas de tribunaux prud'homaux qui sont capables de faire respecter la loi. La Cour suprême, on peut pas encore la saisir. La Knesset, elle est aux abonnés absents. Enfin voilà, on est dans une sorte
De vide.
de grand, voilà, de vide, voilà, de vide politique, de vide juridique très très inquiétant. Les juristes, il y a beaucoup de juristes qui tirent la sonnette d'alarme, qui essayent d'avertir les gens aussi de ne pas courber les chines, parce que finalement beaucoup de gens acceptent de se faire vacciner parce qu'ils croient que c'est la loi. On leur a dit à la télé que c'était la loi, et les juristes leur disent, mais non, c'est pas la loi. Tant que la Knesset n'a pas encore voté, bon là, ça y est, le 10 mars, il y a eu déjà ce qu'on appelle des tzakanot, mais avant le 10 mars, déjà, il y avait rien du tout, et juste des hanchayot, enfin des recommandations du ministère de la Santé qui n'ont pas valeur de loi. Et là, c'est pas encore strictement parlé dans la loi. Pas encore. Mais bon, voilà. Et en fait, les juristes sont là pour dire aux gens, mais non, vous avez des droits. Ne renoncez pas comme ça. Faites-les valoir. Dites aux employeurs qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Les avocats fournissent des services gratuits, des lettres, pour protéger aussi les enfants dans les écoles, au cas où on voudrait les vacciner. Enfin, voilà, il y a quand même, on sent qu'il y a une grande mobilisation des juristes, mais qu'en même temps, ces juristes sont en désarroi parce qu'ils ne savent pas si les cours de justice, si le bagat, c'est-à-dire la Cour suprême, etc., et la Knesset, vont être de leur côté. Et voilà,
Alors en
on peut en
fait,
douter.
Steve Ohana, on peut dire que vous jouez le rôle d'un lanceur d'alerte.
Écoutez, en fait, j'ai agi avec ma conscience. Je sais que beaucoup de gens ne partagent pas mon opinion. Je
Oui, vous n'allez pas
me
vous faire beaucoup d'amis
c'est
là. Hein.
non, non. Voilà, je vais contre un narratif dominant, un narratif qui est comme une énorme vague qui emporte tout. et qui est difficile, contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter. Mais c'est ma conscience qui m'a dicté d'écrire ce texte. Je vois autour de moi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partagent ma colère et mon inquiétude, et j'ai fait ça pour mon pays.
Alors, je rappelle que votre tribune s'appelle « La campagne vaccinale israélienne, prouesse logistique, fiasco démocratique », et on peut la lire sur votre blog. Merci beaucoup, Steve Ohana.
Merci, Emmanuel.